Radio G 101.5 FM.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h, nous sommes lundi 4 novembre. Et comme tous les lundis, pas forcément que les 4 novembre, c'est quand même l'heure de la case de Seb. Et nous allons vous parler de comics, de bandes dessinées et de manga. Tout ça avec bonne humeur et passion. Je suis en compagnie de mes petits camarades habituels et également d'un invité spécial. Je suis bien sûr en compagnie de Tony, Anthony et Teddy. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Tristan. Salut.
Salut.
Alors, ça va, pas trop stressé? T'es en train de chercher à me voir à travers les tentacules de micro.
Non, ça va.
Alors, t'es venu pour nous parler d'un bouquin que t'as beaucoup aimé.
Ouais.
Alors, on va revenir dessus tout à l'heure, mais si, comme Tristan, vous voulez venir parler de BD que vous avez aimé, ben, n'hésitez pas, le studio est ouvert. Même si vous voulez juste venir voir comment ça se passe, eh ben, ça fait partie de la case de Seb, c'est du direct. Et vous êtes, bien entendu, les bienvenus pour vous marrer un petit peu.
Oui.
Oui.
Ouais.
Ça va ? Ça vous a fait plaisir de vous faire une petite pause la semaine dernière ?
Bah, moi, j'avais pas trop le choix sur la semaine, donc ça va. Ça va.
Okay. Moi j'étais pas en pause.
T'étais pas en pause toi?
Non, j'animais un stage BAFA.
Ah oui, mais t'étais pas là non plus. C'était non. Une pause BD.
J'ai traumatisé d'autres oreilles.
D'autres oreilles. Et toi, Tony?
Moi j'étais pas là. Moi.
T'étais pas là. T'avais piscine?
Ouais, un truc dans le genre. Je sais plus ce que j'avais, mais j'étais pas là.
Tu te remettais peut-être de Saint-Malo?
Non, j'étais pas à Saint-Malo. J'étais pas à Saint-Malo, donc j'avais même pas cette excuse là, mais non, pourquoi? Ah bah si, je sais. Mais je dirais pas.
Oh, bah,
non, ça va, oh, on a une vie privée aussi.
Allez, la case de Seb, une émission qui cultive le mystère. Est-ce qu'on se fait quelques petites news comme ça?
J'en ai quelques-unes. Alors après, je vais les lire. Hein, donc, Actua BD, notre partenaire.
Je peux faire la news la plus fraîche du monde, puisque c'est une news qui date de 7 minutes. C'est qu'il y aura une dédicace d'Olivier Ledroit le samedi 9 novembre à partir de 15h pour le tome 3 de Wicca au Repère des Héros. La réservation se fait exclusivement par retour de mail, donc si vous n'avez pas eu le mail, vous ne pourrez pas. C'est pas mal, mais elle était super fraîche comme news, puisqu'elle date d'il y a 4 minutes.
C'était le combien, pardon?
Il y a 4 minutes.
En fait, oui, mais quand est-ce qu'il vient?
Le 9 novembre.
9 novembre.
À 15h.
D'accord.
Donc c'est le week-end.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Donc même si vous n'avez pas reçu le mail, au pire, harceler le repère des héros.
C'est un événement en soi, parce qu'il ne fait pas énormément de dédicaces, ce garçon.
Non.
Il décommande beaucoup aussi également, et là pour le coup c'est... Non, c'est vrai,
c'est le Amy Winehouse de la BD.
De ce que j'ai entendu, c'est sûr qu'il viendra. Et c'est un petit événement en soi, quand même, parce qu'il a une grosse fanbase,
oui, quand même.
Olivier Ledroit.
Bah, ça fait un moment aussi qu'il fait des choses.
Ça fait un sacré bout de temps, ça fait une bonne vingtaine d'années ouais, qu'il est dans le métier.
Allez, balance ta petite news, j'en ai une ou deux aussi. Hein.
Bah tu peux y aller, moi c'est pas un souci, j'en ai trois, quatre. Et la quatrième, je vais pas la lire du coup.
Alors, c'est soirée news parce que j'en ai aussi. Donc.
Eh ben, on va faire la soirée news.
Attends. Tu reviendras. Est-ce que c'est de la bande dessinée?
Voilà. C'est comme d'habitude. Quoi.
Non, voilà.
Voilà.
On accepte tout maintenant.
Ouais, on est. Voilà. Tiens, on va faire en mode devinette. Édition Cana, 20 ans.
Les éditions Cana fêtent leurs 20 ans.
Non, raté, c'était trop facile sinon. En fait, 2020, ce sera le grand retour de Shaman King.
Génial, j'ai vu ça passer.
Pour les 20 ans de la série, de l'anniversaire de la série en France. Alors, il faut un truc un peu bizarre, puisque déjà, on va avoir droit à la fin qui n'avait jamais été publiée en France.
Et ils rééditent le premier, c'est
ils
ça
ils rééditent, ils vont tout rééditer petit à petit, mais ils vont faire une sortie simultanée du tome 1 et du tome 17. Donc, le premier et le dernier.
Ouais, bah
donc entre
pas.
Les deux, ça va faire un petit peu bizarre d'attendre, mais bon. Et il faut savoir que l'auteur a retouché l'intégrale en fait de son truc pour l'occasion de cette sortie.
Quel fou furieux.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'avais bien aimé.
Ah c'était bien, c'était
énorme.
Ah ouais. Et puis j'ai toujours les notes du générique dans la tête là. C'est tu viens de me balancer une espèce de coup de vieux.
Attends.
20 ans, c'est-à-dire que j'avais 7 piges quoi.
Ouais, t'étais vachement jeune.
Ouais, j'avais des cheveux.
Ouais, moi aussi. Tony, je t'en prie.
Son jingle, comme ça,
c'est
à sec.
Non, ouais, à
d'accord,
sec.
Super. Alors, Angoulême a été... encore une fois, c'est Actua BD qui... Et je vais lire, hein, clairement. J'ai pas eu le temps de réécrire et je m'en excuse. Mais c'est tellement bien écrit que du coup, voilà, c'est notre partenaire forcé, Actua BD.
On va finir par l'envoyer des droits d'auteur.
Savoir qu'Angoulême a été désigné ville créative par l'UNESCO. Voilà, ça a été créé en 2004 par l'UNESCO, le réseau des villes créatives, fort de quelques 246 villes. A pour but de promouvoir la ville comme un laboratoire créatif mettant des industries culturelles au cœur de son développement. Il vient de désigner Angoulême dans le réseau des villes créatives au titre de la littérature. C'est une victoire personnelle du maire de la ville, Xavier Bonnefond, qui a mené cette croisade. Cette reconnaissance donne enfin à ses lettres de noblesse à la bande dessinée comme un genre littéraire à part entière au niveau de l'UNESCO. Rien que ça. Non mais sérieusement, c'est un événement en soi. Écrit-il sur sa page Facebook, non sans proclamer sa cité, de façon un peu grandiloquente, capitale mondiale de la bande dessinée, où là il s'enflamme un peu. C'est une jolie victoire en effet, menée avec le soutien de l'État, des collectivités régionales et des institutions locales de la bande dessinée, dont la Cité internationale de la bande dessinée, qui est quand même un bel outil pour ça de toute façon, le Festival international de la bande dessinée qui a lieu en janvier, je le rappelle, et l'École européenne supérieure de l'image. Et d'inviter tout le monde le mercredi 6 novembre, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, à 16h30 à Angoulême, dans les locaux du musée de la BD, au Chez Magély, pour fêter l'événement en grande pompe.
La classe.
Ouais, c'est pas mal. Enfin, je trouve que du coup, c'est mérité.
Parce que du coup.
Ah bah oui, c'est... non, mais clairement, enfin, depuis le temps qu'ils œuvrent.
C'est pleinement justifié, c'est. Non, tout va bien là-dedans. Moi, je suis à fond, à 100% pour.
C'est une belle news. Les yes. Blow Books, qu'est-ce que c'est selon vous les Blow Books?
C'est des livres gonflables à mettre dans la piscine.
Alors non, c'est une question, c'est une nouvelle façon d'éditer et de distribuer la bande dessinée, point d'interrogation. Alors les attentes en guerre peuvent parfois être longues, très longues, surtout en ces temps troublés. Vous seriez alors peut-être tenté d'utiliser un distributeur automatique pour vous procurer une sucrerie réconfortante, mais s'il existait un autre moyen de patienter qui n'aurait pas de péremption et n'affecterait pas votre cholestérol... C'est le concept des distributeurs Blowbooks, des machines qui ne distribuent ni des sodas ni des gourmandises, mais bien des bandes dessinées. À l'origine de ce projet, on y retrouve Philippe Capard, fondateur de la Crypte Tonique à Bruxelles, le magazine qui décrypte l'image. Le magazine qui décrypte l'image, c'est ça. Les Blowbooks sont des petits livres de 7,6 cm par 11,6 cm, c'est précis. Hein. À peine plus grand qu'un paquet de cigarettes et à la forte pagination, près de 200 pages. Le format s'impose une case par page et tous les exemplaires sont au prix plancher de 5€. Alors sur ce prix, 20% reviennent à l'auteur, 20% au distributeur, 20% au fabricant et le reste pour la gestion éditoriale. 4 titres sont aujourd'hui parus, on y retrouve des œuvres patrimoniales ainsi que des créations originales. L'auteur garde un contrôle créatif absolu sur son travail, de la couverture à la typo en passant par la maquette. Et ça fait un écho direct à ma chronique de tout à l'heure, à savoir sur les solutions différentes du modèle éditorial tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui sont en train d'émerger, et certains se creusent la tête pour trouver des nouveaux modèles économiques, aussi bien pour les auteurs que pour les lecteurs, et ça en fait partie. Alors après voilà, je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas bientôt dans les gares on trouvera des distributeurs de bouquins, de BD en l'occurrence.
Trop énorme.
C'est marrant parce qu'avec le format que tu décris, ça donne l'impression que le livre va être plus large que le reste.
Oui, j'entends.
Ça doit être rigolo, ça doit avoir une drôle de tronche.
Mais je sais pas, j'en ai pas vu pour l'instant, j'ai juste vu des photos, donc on verra ce que ça peut donner. Mais voilà. Et en même temps, ça peut faire émerger aussi une nouvelle forme de bande dessinée qui n'existe pas jusqu'alors. Une case par page, t'en as pas tant que ça, puis des bouquins tout petits de 100 pages, ça peut être curieux.
Ça fait un ouais.
Ne serait-ce qu'en termes d'objets. Alors après, 200 pages pour 5€ quand même. Enfin, tu vois, faut aussi. Je trouve que l'initiative est belle.
Ouais. À voir ce que ça donne. Et puis voilà. Si c'est pas bien, ça servira à caler les meubles.
Bah, par exemple.
200 pages. Non, je plaisante. Ne faites pas ça avec vos livres. Même les mauvais.
La CBD. Qu'est-ce que c'est que la CBD?
L'association des critiques de bande dessinée.
Et des journalistes de bande dessinée a remis, bien joué, à l'occasion du Comic-Con 2019 qui s'est déroulé pas plus tard que le week-end dernier. C'est ça, c'était le week-end dernier ou non, c'était le week-end
Non, c'était le, pendant Saint-Malo.
Voilà, c'est ça. De Paris, son tout premier prix comics de la critique et Actua BD y était. Vu que c'est eux qui écrivent, ils sont targues. Après son grand prix de la critique, ses prix Asie, Jeunesse ou Québec, la CBD avait pris la décision de distinguer enfin aussi les comics lors de sa dernière assemblée générale tenue au cours du Livre Paris 2019. Et du coup, les votes de membres de la CBD se sont orientés vers Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerards aux éditions Urban Comics, qui est une très très bonne bande dessinée qu'il faut lire si vous avez pas lu, si vous aimez les comics. Si vous n'aimez pas forcément les comics, Mister Miracle est une superbe relecture d'un super-héros qui est antédiluvien et qui est remis au goût du jour avec ses deux auteurs et de manière fort sympathique.
Ok.
Voilà. Une dernière news. Le 16 novembre, alors 9 novembre, il y a Olivier Ledroit qui vient. Le 16 novembre seront en dédicace au repère des héros Dominique Henbeau, Pauline Caster et Michael Roux, accompagnés de moi-même pour une séance de dédicace. Il y aura une exposition également dans le repère bis. Et puis c'était surtout ça la chose sur laquelle je voulais communiquer. Le matin, nous proposerons un atelier parentalité avec parents et enfants qui devrait durer 2 heures, 1 heure et demie, je pense. Où on travaille sur un concept alors, basé sur les séries Rulio Biscotto et Félicitrouille qui permettrait aux parents et aux enfants d'échanger pendant 1 heure et demie et de travailler sur un projet créatif together plutôt que les parents soient juste là pour surveiller
pour
leurs
surveiller,
enfants
ouais.
Ce qui est trop souvent le cas, là, on avait envie qu'ils soient autant acteurs que leurs enfants. Donc on potasse là-dessus, ce sera le 16 novembre au matin. Je pense que ce sera sur inscription, je pense que le repère des héros viendra communiquer dessus dans l'avenir. Pour l'instant c'est pas le cas.
Et je pense que s'il y a inscription, il va falloir se dépêcher parce qu'il n'y aura pas tant de place que ça.
Il n'y aura pas une jauge extraordinaire, ouais.
Mais très bonne idée.
On verra. On verra.
On reparlera de Julio Rulio Biscotto dans quelques minutes.
Avec grand plaisir.
Avec ton grand plaisir. Tu sais pas ce que je vais en dire.
Non, mais c'est pas grave. Du moment qu'on en parle, en bien ou en mal, c'est pas grave.
Tiens, j'avais une dernière petite news. Et puis, t'en as combien, toi, Teddy ?
Oula, 1, 2, 3, 4, 5.
Non, mais c'est pas de la BD. Faire, c'est pas de la BD.
On va voir. Vas-y, mets-en une petite et puis moi j'en reparle.
Ok, donc tout d'abord pour moi une merveilleuse nouvelle. Donc le film, je sais pas si vous vous rappelez, le film d'animation sur Spider-Man Into the Spider-Verse.
Oui, et bah, j'ai vu.
Voilà. Donc du coup, c'est confirmé. Il y a bien une suite de prévue. Par exemple, par contre, c'est pour le 20 avril 2022.
Oh. Ouais.
Donc c'est un peu dans longtemps, mais en vue de l'originalité et la beauté du visuel que j'ai trouvé du premier, moi je pense que vaut mieux attendre qu'ils fassent les choses bien, parce que du coup c'est une équipe qui a carte blanche, et Marvel les a laissés faire carte blanche, donc je pense que c'est bien de leur laisser ce timing, surtout qu'ils viennent tout juste de recommencer à se mettre au boulot, donc...
Bah, s'ils arrivent à nous surprendre de la même façon avec le 2, ce sera le bienvenu, parce que c'était le côté extrêmement innovant et super bien ficelé qui fonctionnait.
Ouais.
Si on nous refait la même chose mais qu'il n'y a pas autant d'innovation, je pense qu'on n'aura peut-être pas le même plaisir. Après,
en tout cas, c'est
un délire visuel qui était assez, assez gueulin. Tu l'avais vu, toi, Tristan, ça ?
Lequel Spider-Man ? En Spider-Man. Français, c'est
bien, très
New Generation. Bah, il est énorme.
Voilà, c'est mieux avec le micro qui marche.
C'est un des meilleurs Spider-Man qui est sorti, franchement, pour moi.
Ah, tu m'étonnes.
Là, tu t'entends dans ta voix maintenant.
Oui.
Oui, tu t'entends dans ta voix. Excusez-moi.
Donc voilà.
Yes. Alors, moi, je prends le fil et puis tu recontinueras derrière.
Vas-y, vas-y.
Est-ce que vous connaissez, on parlait de méthode d'édition alternative, tu connais Maliki bien entendu.
Ouais.
Donc savoir que là depuis un petit moment, ils ont lancé en précommande un vinyle, un 45 tours vinyle avec le générique de la série animée Maliki, série qui n'existe pas encore. Donc c'est en précommande sur leur site, c'est un vrai vinyle 45 tours avec un artbook de 60 pages, avec des recherches, des anecdotes. Ce sera numéroté, signé, il n'y aura pas de réédition. Et ce sera livré début 2020. Truc plutôt cool. Je vous passerai un petit mot, le générique tout à l'heure, parce que moi j'ai bien kiffé.
Oui. Oh, un goût de désaffaire, trop bien.
Oh. Non, mais c'est un truc assez fun d'avoir un générique d'une série qui n'existe pas encore. Donc c'est plutôt cool. À toi, Teddy.
Donc du coup, pour continuer chez Marvel, ceux qui le savent déjà et qui avaient suivi un peu la Comic-Con, Ant-Man 3 est bien sur les rails depuis quelques temps. Et du coup... Michael Douglas a confirmé son retour dans le troisième volet et a précisé par la même occasion que le tournage débutera en janvier 2021. Donc on va pouvoir s'attendre à une sortie en salle l'hiver de la même année.
Trop bien.
Et sachant que ça va vraiment, là on va vraiment se focus sur le royaume subatomique, comme c'était prévu à la base pour le 2, mais vu qu'il y a eu Endgame et tout ça, ça a précipité les choses. Donc voilà, Ant-Man 3, d'ici à peu près un an, va falloir attendre, ça va.
Sachant que si j'ai bien suivi en termes de parution, tu vas avoir beaucoup de boulot sur les années à venir. Ouais. Ils ont prévu 4 films par an ?
8 films sur 2 ans.
Ça va piquer ?
Ah. Ouais. Sachant que très récemment, ce qui va sortir dans l'année à venir, il y aura Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, il y aura Shang-Chi, il y aura aussi un troisième Spider-Man qui a été confirmé, il y aura aussi Venom 2, il y aura...
Mais c'est pas tout à fait Marvel, Venom 2, attention.
Ouais, mais ça fait partie de Marvel, c'est Marvel-Sony, comme... Mm. On peut dire ça aussi de Spider-Man aussi, du coup, parce qu'il appartient à Sony.
On est d'accord.
Donc voilà, ouais, 8 films étendus sur il y a Black Panther 2 aussi. Enfin, si vous voulez aller chercher un peu, toutes les dates, sans les titres bien sûr, sont dessus, mais il y a des screens qui tournent, qui étaient sortis à la Comic-Con. Enfin voilà.
Parfait.
Et donc, il y a aussi de la news chez DC Comics, pour le coup. Donc, on va parler vite fait du Joker, qui a atteint les 900 millions de dollars au box-office.
Beau décollage.
Ouais. Bon décollage, sachant qu'il reste encore une semaine et qu'on tournerait à peu près en 950 millions de dollars à la fin du box-office. Donc, et à l'heure actuelle, c'est le film Rated R le plus rentable de tous les temps.
Ouais, donc ça va quoi.
Ouais, pour un budget de 555 millions de dollars, ça va. C'est bien, bien rentable. Et donc, du coup, toujours chez DC, deux rôles se précisent pour The Batman. Mm-hmm. On avait déjà entendu parler de Zoé Kravitz pour le rôle de Catwoman. Mais là, du coup, on est sur un Jeffrey Wright, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui incarnera le commissaire Gordon. Alors, je ne sais pas si vous voyez à peu près qui c'est. Il a joué dans Hunger Games, Westworld, et celui qui faisait aussi le chasseur dans Aucun homme ni Dieu sur Netflix récemment. Et sinon, on a aussi du coup Paul Dano qui a joué dans Swiss Army Man, et là je sais que ça va parler à Anthony.
Oui, ça je sais.
Dans Prisoner, c'est aussi 12 Years a Slave qui pour jouer The Riddler, excuse-moi.
Ça peut être pas mal.
Voilà.
À voir.
Ouais, à voir. Plein de bonnes choses en perspective.
Merci Teddy. On va faire une toute petite pause musicale, on va peut-être pas en faire beaucoup parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que tout le monde est venu avec plein d'infos.
Pour une fois.
Oui, Tony, j'avoue, hein. Pour une fois, t'as fait quelque chose, c'est cool.
Oh, on le sait jamais quand il pourrait la fermer, lui.
Je suis du bon côté du micro, c'est pour ça. Ouais, je vous l'avais promis, je vous mets le générique de la série Maliki et on se retrouve juste après. C'est court. Hein.
Bah, allons-y.
Mais c'est parti.
Maliki, jure qu'elle est née comme ça. Sous son crayon, sa gesticule à tout va. Récit et tracade.
Ouais.
Ah,
là je m'entends. Okay.
Et moi je parle avec toi, là, tu m'entends par rapport à ta voix.
Ouais.
Donc là, faut que t'arrives toujours à ce que ta voix soit pas beaucoup plus basse que la mienne.
Okay.
D'accord ? Donc t'entends correctement si tu parles bien. Décale-toi comme ça, tu vas voir. Ta voix. Tout de suite, tu te rends compte que la voix elle change. Quasiment plus, quand t'es pas très loin du micro, d'accord ?
Oui.
Ok ? Allez, c'est bon. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Ah, quoi. Tes oreilles, pardon, attends, surtout que je t'ai coupé la voix. Pauvre Patrick.
Comme ça.
Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. Oui, non, c'est le temps que c'est la blague. Non, trop précise.
Ah non, c'est qu'elle est pas bonne, surtout.
Je la referai pas. Allez, qui veut commencer ?
qui veut commencer?
Tristan, t'es motivé?
Non, je passerai en deuxième ou en troisième.
Allez, bah, je commence du coup avec un tout petit bouquin presque carré, j'ai pas vérifié, qu'on a failli se battre, hein, on a failli se déchirer pour l'avoir.
Non, je me bats pas moi.
Un petit bouquin aux éditions, éditions Delcourt, dans la collection Patakès, collection qui raconte plein de bêtises et des petits bouquins qui sont un peu barrés. Là, il s'agit de Comment réussir de Geoffroy Monde. Comment résumer ce truc? Ce sont 50 tutos indispensables pour réussir des choses que tu ne t'es jamais demandé comment les réussir. Le tout avec l'humour complètement absurde qui caractérise Geoffroy Monde. Si l'absurde, on va dire simple, c'est Fab Caro, là on a l'absurde, on va pas dire en version courte, puisque le Fab Caro est capable de faire une histoire absurde. Là, on est vraiment que sur des tout petits trucs, et c'est complètement barré. À chaque fois, on a deux pages qui nous expliquent comment réussir à gagner de l'argent, ou à réussir des trucs bizarres. Je vous fais le premier, par exemple, comment réussir à gagner 900 000 euros. Donc, on a 6 cases au total. Hein. Donc, vous faites des jeux à gratter tous les jours, vous trouvez un ticket gagnant d'une valeur d'un million d'euros. Vous placez le ticket gagnant sur le trajet de promenade d'un voisin possédant un chien. Vous laissez le voisin trouver le ticket gagnant et encaisser la somme. Vous kidnappez son chien et vous demandez une rançon de 900 000 euros. De toute façon, il les a. Et là, tu fais... C'est souligné le « il les a ». Mais c'est complètement barré. Il y a le « comment devenir une tortue ninja ». Alors, tu découpes un carré de feutrine et tu découpes les yeux. Et ensuite, tu vas vivre dans les égouts pendant 8 ans. Ça y est.
En mangeant des pizzas, ouais.
Oui. Là, sans forcément manger des pizzas. C'est juste... enfin... Ce n'est que ce genre de choses, et c'est complètement barré. Moi, j'aime énormément cet humour complètement non-sensique, complètement fou, en fait. C'est tout frais, c'est tout simple. Il ne faut absolument pas, le prendre au premier degré, parce que ce serait dommage de passer... Alors, il y a certaines des blagues qui sont un petit peu gore, mais voilà, il y en a une qui est assez rigolote quand on aime la BD, c'est comment réussir à boire de la potion magique même si on est tombé dedans quand on était petit. C'est assez précis, hein, comme et en gros, c'est le jour de la distribution, faut se déguiser avec une toche sombre et avoir un accent factice, et puis une fois qu'on arrive, tu dis que tu t'appelles Serge, tu bois de la potion magique, et puis après t'es mort, et puis t'as une gorgée est fatale, et du coup t'as une tombe à te marquer Serge. C'est complètement barré.
What the fuck?
Ah mais complètement, tu te dis ça à chaque fois. Voilà, comment réussir à ne pas avoir la peau du visage qui pend, se la découper puis la relifter sous sa casquette. C'est un petit bouquin d'humour qui ne paye pas de mine, qu'on peut trimballer partout, qu'on peut mettre dans les toilettes, hein, disons-le franchement, et qui permet de picorer une petite vanne une fois par jour quand vous n'avez pas le moral. Ça vous remontera pas le moral, mais ça vous fera marrer au moins deux secondes.
Ça nous snie voilà. Comme on les aime, du coup.
Ouais, complètement. Un objet séquentiel non identifié. Alors là, purement identifié quand même, parce que Geoffroy Monde, on est rarement dans quelque chose de très... on va pas dire pas construit, mais c'est vraiment complètement barré.
Bah, c'est décousu, et c'est ça qui est plaisant. C'est que tu t'y attends jamais et ça tape... Ça tape direct.
Allez, comment réussir de Geoffroy Monde, c'est aux éditions Delcourt dans la collection Patakès, une collection qui fait marrer Anthony. Anthony, c'est ton tour du coup.
Oui, alors du coup, tiens, je te le rends. Voilà. On avait déjà chroniqué des choses de Patakès en plus par le passé, et à chaque fois, c'est des petites perles d'humour comme ça qui sont pas mal du tout.
Complètement.
Alors pour ma part, ce sera plus chez Delcourt que ça se passe, et c'est un petit carnet d'aventures ordinaires, volume 1 de L'Homme. Donc c'est de Mademoiselle Caroline aux éditions Delcourt, et c'est un petit format également. Et dans ce petit livre, on a donc Mademoiselle Caroline qui en fait met en page des choses qu'elle a déjà dessinées sur son blog. Et ce premier volume en fait s'attarde plus sur son mari et sur ses divers comportements. Donc je vous fais un petit rapide résumé. Ça vous va?
Ouais, c'est très bien.
Continuez d'écouter s'il vous plaît.
Merci. C'est génial.
Donc l'homme, son homme, l'unique, capable de couper du bois à main nue ou de flinguer une réputation en une phrase, on pourrait s'arrêter à son air malveillant ou à ses remarques cinglantes, mais en grattant un peu, on tombe sur le bonhomme le plus gentil de l'univers. Ce premier album thématique regroupe des pages initialement publiées sur le blog de Mademoiselle Caroline, le journal d'en haut. Donc, c'est résumé très rapidement, mais en même temps, on n'a pas besoin de plus. On a tout ce qu'il faut dans cette description. On a le fait que ça parle d'histoire vécue. On a le fait que son homme a une apparence déjà un peu rustre, a un comportement un peu rustre, mais au fil des pages, entre deux bonnes vannes bien cinglantes et du coup comportement un peu de bûcheron, on a en fait des petites perles de sensibilité d'homme qu'on dissimule bien.
Top class.
Oui, top
class. Je sais pas quoi te dire de plus.
Moi, je vais te dire ce que je peux te dire de plus. Un petit extrait, par exemple, où on a justement Raph, donc son mari, qui lui demande, sans déconner, c'est quoi cette coiffure ? Elle dit, oh, tu sais, mes cheveux, c'est tout un poème. Il dit, ouais, un poème avec des fautes de frappe.
C'est un poète.
Oui, et disons que j'ai pris l'une des moins virulentes, on va dire. Donc voilà, donc elle nous invite à travers ces pages en fait à découvrir un petit peu sa vie de couple, son petit train-train qui est avec un trait plutôt agréable un style de trait qu'on a pu déjà voir un peu par le passé. C'est assez simpliste, mais c'est communicatif et
on avait déjà parlé de Mademoiselle Caroline. Hein.
Peut-être, je m'en souviens
plein de fois.
D'accord.
On avait fait le Comment maigrir pour les nuls, qui était de Mademoiselle Caroline.
Je sais plus, honnêtement, je ne sais plus.
Enfin bref.
Donc voilà, tout ça c'est retrouvable en fait sur son blog mademoisellecaroline.com et c'est pour le moment le premier tome avec apparaître le carnet d'aventures ordinaire des enfants, des problèmes et des amis. Donc pour le moment, je vous invite à découvrir ses petites mésaventures avec son mari dans le carnet d'aventures ordinaire L'Homme, volume 1 de Mademoiselle Caroline aux éditions Delcourt.
Merci.
Et ça se lit très vite.
Ah mais c'est enfin il faut.
Ça se dévore.
Ça se dévore.
Voilà.
C'est au poil.
Ouais. Ah bah au poil oui, c'est qu'à le dire.
Alors Tristan, te sens-tu à l'aise ?
Oui,
aussi à l'aise qu'un poisson en plein milieu d'une flaque d'huile. C'est au moins c'est ce que je ressens pour toi là.
Non.
Non.
Ça va.
Allez, détendu.
Ouais.
Ah, on t'écoute. De quoi tu nous parles ?
Je vous parle moi de Comme on peut, donc tome 1 qui s'appelle Grandir en foyer, la BD de Mohamed Ketfi ou John Rachid sur YouTube. Scénarisé par lui et dessiné par Lenny Malky. Donc c'est une BD qui parle de son enfance. La BD se passe à Lyon.
D'accord.
En gros, on voit toute son enfance depuis la conciergerie et puis on voit aussi comment il a grandi en foyer. Et du coup, on suit les péripéties de lui et ses potes dans toute la campagne lyonnaise et la ville de Lyon. Du coup, moi j'ai trouvé ça hyper attachant parce que les dessins sont beaux. Et puis, on suit les personnages qui vivent vraiment une vraie aventure tous ensemble. Et donc après, ça nous emmène jusqu'à la fin où il arrive en famille d'accueil, ce qui nous donne très envie de lire la suite, parce qu'il y aura une suite. Et il y a des QR codes qui sont disponibles dans la BD, où tu peux scanner et ça te donne droit à des vidéos exclusives qu'il a tournées il y a longtemps. Et donc... dont il fait le récit en dessin. Par exemple, il y a une page où il arrive dans sa ville où il y a sa famille d'accueil et il filme tout un tas de trucs avec la caméra de l'enfant des parents d'accueil.
D'accord.
Et donc, en fait, la vidéo, ça, il l'a vraiment filmé. Et donc, quand tu regardes la vidéo, tu retrouves les dessins.
On retrouve ce qu'on a retrouvé dans la BD.
Dans le dessin.
C'est un bon complément, en fait.
Ouais, ouais. C'est vachement bien.
Et au niveau dessin, donc tu disais que c'était un dessin qui te plaisait pas mal. Décris-nous un petit peu son style graphique. C'est plutôt comment ?
C'est plutôt très simpliste. C'est pas très très réaliste. Mais les dessins sont assez bien travaillés parce qu'on voit les têtes des personnages vues de côté un peu à la. J'ai pas d'exemple, mais des
Égyptiens, tu vois, ils sont de profil et à la fois de face.
Voilà. Et donc, en fait, il y a plein de couleurs. Et puis, c'est pas que une BD où il y a des cases et il y a des dessins dans les cases. C'est-à-dire que là, des fois, tu vas pas avoir de cases. Tu vas avoir des dessins sur toute la page. et même des fois des personnages qui sortent des cases
qui vont casser un petit peu la structure de la BD en elle-même.
Ouais, et donc du coup tous ces dessins là et la variété des styles des pages, c'est vraiment intéressant et ça nous entraîne dans l'histoire.
Ok, et du coup au niveau histoire, en fait on suit vraiment un jeune homme avec sa bande de potes dans sa vie quotidienne.
Ouais.
Y a pas de... Est-ce qu'il y a une trame narrative complète, en fait ?
Bah, ce serait compliqué.
Non, c'est plus des jeunes tranquilles qui vivent.
Ouais,
et puis,
mais après, ça explique aussi quand ils sont arrivés au foyer et ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait. Et donc, on suit quand même un peu une histoire. Donc, il y a l'histoire du début... quand ils arrivent au foyer, puis à la fin quand ils repartent, et après on voit comment ils évoluent. Parce que par exemple, chaque chapitre, il y a sur la page de gauche une photo de John Rashid, du coup, qui grandit en fonction des chapitres, et t'as une citation de rappeur, je crois, ou une phrase assez bien faite.
Tony, qui l'a dans les mains ?
Je suis pas sur ces pages dont parle Tristan, mais.
Regarde, cherche.
Ne fait que ça.
Je suis pas un expert, mais en tout cas moi le dessin me fait penser un peu au type genre Lascar à l'époque.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Bah puis
le côté bien underground,
le côté rue, le côté cascade,
ouais,
le côté. Mais effectivement, il y a un truc comme ça. Non, je ne trouve pas de tête de chapitre.
Attends,
est-ce que tu veux récupérer le bouquin, Tristan ?
Oui,
toi, tu les as vus.
Je vais t'en trouver une.
Alors ça reste un bouquin qui est hyper épais quand même. Il y a
oui,
combien de pages ?
300 pages.
T'as vu comment il était content là ? C'est-à-dire, genre, il avait anticipé cette question là.
Il mesure combien et pèse combien le bouquin ?
ça, je sais pas.
Oh.
Ah oui, effectivement, des rappeurs. Alors, c'est normal qu'ils le connaissent pas parce que c'est Rien ne sert de courir, petit frère, c'est Dayam. Donc, c'est
si,
carrément
je
pas
connais,
du
tout. Je connais pas
nous. Donc, ouais, apparemment, c'est des. Alors, c'est pas des photos à proprement parler en fait, c'est des dessins mais qui représentent
des
photos, ouais. De lui apparemment dans le foyer, ouais. Effectivement, à des âges différents.
Mais après, des photos, si tu en vois, regarde, si t'ouvres juste derrière la couve.
Ouais.
Non, là, là.
Là.
La première couve. Là, t'as plein de photos.
Hop là, oui, d'accord. Ok, oui, des vraies photos.
Ah oui, des vraies photos de son enfance.
Non, c'est plutôt étonnant comme bouquin, ouais. C'est foutraque et en même temps ça, c'est plutôt agréable à lire. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup la télévision allumée. Et.
Il n'y a personne qui la regarde ?
Non, mais c'est des. Ils ont fait des captures d'écran, donc tu as une. T'as carrément une photo du Club Dorothée.
Oui, il y a plein de références aux années 80.
T'as Poivre d'Arvor, t'as Michel Sardou.
Plein partout.
Non, c'est plutôt rigolo. Ça a l'air assez frais, quoi, je trouve, du coup.
Ça a l'air de fourmiller de plein de petits détails. En tout cas.
Une biographie, de toute façon.
C'est autobiographique, ouais. Connaissant John Rashid, ouais.
Oui.
Après, tu disais que c'était un tome 1, donc du coup, qu'est-ce qu'il va raconter dans le tome 2 s'il n'est plus au foyer, concrètement ?
Bah, parce qu'en fait. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais justement, la vie en famille d'accueil se termine à la fin du tome 1.
D'accord.
Et il part quelque part. On ne sait pas où.
Et tu veux pas dire où ? Ah si, tu sais pas.
Non, on ne sait pas où. Du coup, c'est pour ça que ça donne envie de lire la suite.
Ouais.
Si, on a une hypothèse, mais.
Laisse-le. Il y a des théories, des fans théories.
On aime le mystère ici.
Si ça se trouve, il était parti avec Tony le week-end dernier.
C'est un gros bouquin qui joue la carte de. Je répondrai pas.
Et la BD ressemble à une cassette VHS, si tu regardes un peu.
Ah oui, sur la tranche.
Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais.
D'où l'omniprésence de la télé.
Bah, puis il y a un côté vintage, on voit, tu vois, c'est un peu abîmé. C'est marrant parce qu'il y a carrément des vignettes Panini de Zidane jeune, en l'occurrence, de la ville de Lyon. Il y a des POG, il y a également des cartes crado, il y a un truc Dragon Ball.
C'est vrai que pour connaître un peu ce youtubeur, justement, John Rashid, c'est un mec qui adore justement jouer avec les références. Il fait beaucoup de vidéos sur ce que lui regardait à l'époque, ce qu'il écoutait à l'époque, et maintenant ce qu'il y a maintenant, faire des comparaisons et nous parler beaucoup de la vie qu'il a eue avant. Et je trouve ça très intéressant justement parce qu'il y avait beaucoup de mystères aussi par rapport à ça et il voulait développer beaucoup de choses mais que tu peux pas faire en vidéo clairement. Mmh. Et ça permet de rajouter tout ça dans un livre et c'est une bonne chose à acheter si vous aimez la personne. Je suis sûr qu'il y a même des choses intéressantes si vous la connaissez pas.
Ouais, ça peut vous permettre de découvrir
et
si
vous faire
avez
découvrir un bon
foyer, YouTube, je pense que ça peut vous aider aussi. Ça peut vous redonner de petites larmes à l'œil. Et puis, ouais, non, bah, ça peut permettre aussi de découvrir un youtubeur qu'on connaît pas. Hein.
Ouais.
Et tu parlais des références, il y en a plein partout.
Mais oui.
Surtout aux années 90.
Oui, bah ça, c'est du John Rashid tout craché, de toute façon.
Et toi qui es plus. Alors, tu vois, là, je vais tout de suite confronter ta propre expérience. Toi qui es un peu plus jeune que les cinq autres, enfin les quatre autres personnes présentes dans le studio. Ces références-là, toi, tu les percutes. Elles sont suffisamment bien ou c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça en fait ?
Bah moi, j'ai pas vécu ça, mais j'ai quand même vu pas mal de choses et puis c'est assez facile à comprendre. Du coup, c'est des références simples qui peuvent parler à ceux qui les connaissent, mais qui aussi peuvent faire marrer ceux qui les connaissent pas.
Oui, puis ça va pas, ça gêne pas non plus dans la lecture de pas les avoir.
Oh non.
Ok. Est-ce que tu veux nous redonner les références ?
Alors, donc c'est Comme on peut, aux éditions Michel Lafon.
D'accord.
C'est sorti le 10 octobre 2019. Et c'est fait par John Rashid au scénario et Lenny Malky au dessin.
D'accord. Michel Lafon qui fait pas tant de BD que ça.
Non, c'est pas un éditeur. Alors, c'est vraiment un gros bébé. Hein. C'est un beau bouquin pour la modique somme de 24,95€. Je sais qu'on va pas donner des prix. Donc...
Non, mais le prix du livre étant fixe.
Y a pas de concurrence, il n'y a pas de problème.
Bah, ils font pas tant de BD que ça, mais ils ont fait aussi Qui est I.
Le truc du
rire jaune.
D'accord, donc ils se sont spécialisés un petit peu quand même dans la BD de YouTuber.
Ouais, un peu, ils en ont fait quelques-unes, mais je pense qu'ils en ont fait d'autres BD, peut-être, je sais pas, mais...
il me semble qu'on avait dû parler, on avait une biographie sur Lovecraft, je crois, chez Michel Lafon, qu'on a dû parler il y a de ça un moment.
Peut-être, ouais, mais c'est vrai que Michel Lafon, c'est pas les bouquins qu'on chronique le plus souvent.
Ouais. Ben non, ben, c'est pas non plus leur cœur de...
C'est pas ceux qu'on voit le plus de services de presse, non plus.
Mais écoute, je leur transmettrai... si subtilement. Ouais. Merci Tristan en tout cas.
J'ai rien.
Sarah, que tu es le re-bienvenu dès que tu veux.
Bah oui.
J'adore. Ouais, si tu veux.
Non, mais je reviendrai.
Allez, est-ce que tu veux faire coucou à ton papa ?
Coucou papa. Et à Simon aussi. Simon qui doit être en train d'écouter. Et
on Baptiste, fait un gros bisou
qui
à Pierre.
Doit être en train d'écouter. Voilà.
On se refait une petite pause musicale et puis on rattaque derrière. J'ai fait. Ça doit être un truc que tu dois connaître, mais que tu n'étais sans doute pas né. C'est Outcast et il y a.
Oh la vache!
Oh
le coup
non,
de
mais
Dieu.
Suivez ça loin du micro. Mais ça swing bien. Ça va swing dans la chaumière. À tout à l'heure.
J'ai l'impression d'avoir. To perform for you live: Johnny Vulture, Benjamin André, Dookie on drums, Possum Jenkins, and André, Ice Cold 3000. Performing their smash hit, Hey Ya! Ladies and gents, I give you. The love, the love.
I'm just being honest. Oh, oh.
Allez, ça chèque dans les chaumières sur le 101.5 de Radio G. Ouais, je sais, j'aurais jamais dû la faire.
Ah si, 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 au contraire.
C'était Outcast et ouais, on était d'accord, hein, Tristan, t'étais pas né. Hein.
Oui,
voilà.
J'étais pas né.
vous êtes de retour sur le 101.5 de la case de Seb. On est toujours le lundi 4 novembre, il est toujours 19h, un peu plus, parce que du coup 19h40 maintenant, et vous êtes toujours sur le meilleur de la BD, du comics et du manga. Et du coup, on va laisser la parole à Tony, à moins que tu ne souhaites que je fasse ta promo poteau.
Non, bon, moi je veux bien y aller, il n'y a pas de souci. Enfin si, je souhaite que tu fasses ma promo poteau, mais je veux bien y aller, il n'y a pas de problème.
Allez, on t'écoute, on garde le meilleur pour la fin du coup.
C'est ça, exactement. Moi ce soir, je vais vous parler de panelsyndicate.com. Qui est un site internet qui mérite qu'on s'y attarde. Alors si vous êtes un tant soit peu lecteur de comics, vous pouvez pas ne pas avoir entendu parler de Brian K. Vaughan, qui est...
Qui, je sais pas. Non, c'est vrai. Lui qui a fait The Escapist, Saga...
Qui est scénariste de Why the Last Man, d'Ex Machina, et plus récemment Saga en l'occurrence, t'en avais un de bon. Alors, et puis le bonhomme s'est également distingué dans le petit monde des séries télé à succès en travaillant sur Lost et Under the Dome. Alors après, c'est un autre débat de la qualité des séries, mais en tout cas, elles ont rencontré un succès à l'époque où elles ont été diffusées. En 2013, il crée avec le dessinateur espagnol Marcos Martín et le coloriste Muza Vicente, parce que lui aussi est espagnol, la série The Private Eye, que j'ai chroniquée à la saison précédente, pour en dire le plus grand bien. Alors cette série haute en couleurs sera diffusée sur le site Panet Syndicate via le modèle économique de Pay What You Want. Alors, qu'est-ce que c'est que le pay what you want? En fait, ça parle de lui-même. C'est comme souvent en anglais, c'est relativement plus simple que chez nous. Les lecteurs fixent eux-mêmes le prix pour lequel ils peuvent télécharger les comics au format CBR, CBZ, PDF, sans DRM, avec un minimum. Oui, The Escapist également. Mais non, alors, toi, t'avais dit au singulier, et là, c'est au pluriel, tu vois. Avec un minimum de 0,00$. J'ai été débranché. Hop. Voilà, c'est ça. Pour les radins. Concrètement, c'est au chapeau, donc c'est-à-dire que tu peux lire gratuitement, en numérique en tout cas, je ne suis pas sûr que tu puisses télécharger, mais si tu veux pouvoir télécharger dans les formats cités précédemment,
Faut payer, tu peux, rien.
Mais pas grand-chose en tout cas, et tu donnes ce que tu veux.
C'est donc, du FR
S'il y a du CBZ, CBR, CBZ, PDF ou sans DRM.
Il voulait savoir si les,
non, mais si c'est en français ou pas.
Non, c'est en langue, en langue originale pour l'instant. Alors après,
il va falloir bosser un peu, mon cher Teddy.
J'y viens justement. L'expérience, contre toute attente, s'est révélée être un gros succès, et sans faire concurrence aux éditeurs déjà établis, hein, fait de la place pour d'autres auteurs avec des créations à proposer. Ça, c'est le plus intéressant dans l'histoire, comme par exemple Ken Nimura, I Kill Giants, et sa série Umami, qui est actuellement présente sur le site. Ooh. Alors, l'histoire de The Private Eye, pour revenir dessus un petit peu, se passe en 2076, 60 ans après l'explosion du Cloud, et la disparition d'Internet après que les petits secrets de chaque utilisateur aient été exposés à la vue de tous. Dans un monde où tout un chacun garde jalousement sa vie privée au point de porter des masques en public, où les flics sont des journalistes et inversement, un paparazzi détective privé gagne sa vie en marge de la loi jusqu'au jour où une de ses clientes est assassinée. S'ensuit une enquête tonitruante qui va tenir le lecteur tout au long des nombreuses pages qui composent le récit. Donc ça, j'en avais dit le plus grand bien il y a quasiment un an. J'ai vraiment adoré ce bouquin.
Seul point noir, c'était le truc qu'on peut pas lire aux toilettes ou dans son lit.
Oui, voilà, c'est ça, c'est le souci. Fort de ses nombreuses qualités, The Private Eye se voit auréolé du succès critique et reçoit en 2015 un Eisner Award dans la catégorie, c'est ça qui est intéressant, Best Digital Comics, catégorie qui n'existe pas encore chez nous en France. En tout cas, voilà, je suis pas sûr qu'Angoulême récompense ça. Ce qui lui permettra d'entrer au panthéon des œuvres séquentielles qui comptent. Alors Image Comics repère l'œuvre du coup et l'édite de manière traditionnelle, à savoir un bon gros bouquin format italienne qui sortira quelques temps plus tard chez nous sous la bannière Urban Comics. Parallèlement, Panel Syndicate publie aussi Universe d'Albert Montez, dont j'ai parlé en début de saison, une série d'histoires courtes de science-fiction digne à mon sens des ténors, encore une fois, de la science-fiction, tout médium confondu, c'est-à-dire que ça se hisse au rang de, j'en avais parlé, hein, de 2001, l'Odyssée de l'espace, Alien et autres joyeusetés. Alors Brian K. Vaughan, pardon, Marcos Martín et Muza Vicente remettent le couvert sur Panel Syndicate par l'entremise de Barrière en anglais, donc ça veut dire barrière, hein, ou quand la propriétaire d'un ranch jouxtant la frontière mexicaine retrouve son bétail mutilé et qu'elle cherche les coupables parmi les migrants. Alors qu'il semblerait que la menace vienne plutôt d'une autre galaxie. Mmh. Un titre assez peu abordable, je l'ai lu, pour les non-hispanophones, les auteurs ayant tenu à ce que les personnages d'origine mexicaine s'expriment en espagnol, et ce, pendant tout l'album. Donc voilà, si t'as pas fait espagnol LV1 ou LV2, c'est mort, tu peux pas le lire.
Il y a même pas une trad en dessous
Rien du tout. Ah ouais, ça se base là-dessus en fait. Ça se base, c'était important pour le propos, pour ce qui est déroulé tout au long du récit, qu'il continue à parler en espagnol. Un titre qui explore une autre nature profonde à rejeter la différence de la SF utile, comme on dit par chez nous. Et le dernier en date à sortir sous nos latitudes, et que j'ai lu ce week-end, est le pétillant Black Hand Iron, c'est pas Iron Hand, c'est Iron Head, je crois. La main noire et la tête de fer, où deux sœurs aux dons super-héroïques héritées de leurs parents et qui ignoraient réciproquement leur existence vont, après la mort de leur père, mener l'enquête et découvrir que, sous couvert de faire le bien, les super-héros de leur enfance ont commis pas mal d'atrocités au nom de la lutte contre le crime. Un titre adolescent qui se veut léger mais qui écorche habilement les mythes fondateurs, une réflexion maligne et pertinente sur le monde trop souvent édulcoré des super-héros.
Ça pourrait être classe, ça.
C'est très très bien, c'est bien gratté, y a de très 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 bons titres. Alors il faut savoir que tous ces bouquins-là sortent au format italien, parce que c'est un... c'est non négociable, parce que comme ça se base sur un écran et que ça doit être balancé plein pot, voilà, on a la taille d'un écran, en bouquin ça sort au format italien, et ça donne un nouveau format, un nouveau standard qui est pas inintéressant, je trouve.
Ouais, c'est plutôt un bon deal.
Ouais, ouais, tout à fait. Alors pour lire, relire, découvrir ou survoler ces petites pépites numérico-séquentielles, rendez-vous sur http://panelsyndicate, panel P-A-N-E-L, syndicate, syndicate.com, une alternative très efficace aux modèles éditoriaux habituels. D'ailleurs, leur baseline ne trompe pas, hein, c'est Digital Comics Directly from Creators to Readers, des comics digitaux
effectivement, là...
directement du créateur au lecteur. La relation la plus saine et la plus évidente qui soit, et visiblement, ça fonctionne à plein tube. Je redonne encore une fois, http://panelsyndicate.com pour ceux qui veulent y aller. Je trouve ça très très bien. Il y a un modèle, européen qui existe, qui doit s'appeler Webtoon, il me semble, Webtoon Factory, où voilà. Alors on n'est pas sur le même système, on est sur un système de déroulé comme ça. C'est une espèce de bande. Ça sera plus difficile à exploiter en album. Apparemment, ils y ont quand même réfléchi. Et il y a quelques petites choses assez intéressantes à lire. Là, par contre, bon, comme on est en Europe, il faut obligatoirement raquer pour lire.
Ben ouais. Oui. Alors, si vous êtes, je vais compléter parce que du coup, je trouve que le site est extrêmement intéressant pour pouvoir lire des choses innovantes et fun à moindre coût. Je sais pas si tu connais le site Humble Bundle.
Non, du tout.
Donc, c'est un site qui propose en fait d'acheter des choses en pay what you want. Donc, il y a plusieurs paliers et en fonction de ce que tu choisis, tu as accès à certains seuils, certaines publications et tu peux choisir surtout où va ton argent puisque tu peux par exemple donner à des œuvres caritatives. Donc si tu dépenses 1 euro, tu dis bah tiens, Humble Bundle ils auront 10 centimes et 90 centimes ira à l'éditeur ou 50 centimes à l'éditeur et 40 à l'œuvre caritative. Et ils font régulièrement en fait des packages de comics. Là actuellement il y a un package qui s'appelle le Dynamite 15th Anniversary Party, donc faut bien sûr parler anglais sinon on comprend rien.
C'est ça.
Et du coup ce ne sont que des comics alors sans copyright, donc en DRM free. Et là par exemple pour 1$ on a accès à, je vais peut-être pas tous les faire parce qu'il y en a quand même un paquet, mais le comics Game of Thrones, Elvira, le Nancy Drew, l'adaptation de La Roue du Temps de Robert Jordan, est-ce qu'il y a du Vampirella, du Turok, du Xena. Ouais. C'est pas celui-là que je voulais trouver parce qu'il y en avait un il y a très peu de temps en fait. Non mais c'est toujours là, il y a je sais plus combien de bouquins en fait. Donc là c'est Dynamite en fait, il y a beaucoup d'adaptations. Là si, c'est ça que je voulais dire. Pour 15$ en fait, on a accès déjà à tout le palier 1 et on accède à au Army of Darkness dont on a chroniqué en omnibus. On a le tome 1 de The Boys. On va avoir du Vampirella, et puis au fur et à mesure, en fait, on va avoir plein de choses. Enfin, voilà. Il y a moyen d'avoir une pléthore de comics et ne plus savoir quand en lire pour assez peu de sous. Donc, c'est plutôt cool. Il y a des choses d'Alex Ross, par exemple. Toujours sympa à regarder.
Oui, effectivement. Ouais.
Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil régulièrement. Là, le pack actuel, il a encore une dizaine de jours, une quinzaine de jours pour pouvoir y aller. Mais donc, voilà. Faites-vous plaisir. Allez, on a dit qu'on a gardé le meilleur pour la fin. On va peut-être pas arriver à passer 10 minutes dessus quand même.
Oh bah, moi, ça me dérangerait pas. Hein.
Bon, on peut. Hein. Julio Biscotto, tome 3. Après une tentative malheureuse de le faire lire à ma fille, elle a fini par le lire. Moi, je voulais qu'elle le chronique.
Ah oui, oui, bah oui, mais après, c'est peut-être un peu compliqué pour elle.
Non, c'est... Bah, en fait...
Enfin, devenir chroniquer, je veux dire. Non.
Ah, elle l'a fait.
Ouais.
Elle l'a fait pour Chaton contre Dinosaure, donc... pourquoi pas Rulio Biscotto, on verra peut-être sur Félix Citrouille. Il y a pas de souci qui sort là.
Qui sort le 8 novembre, ouais.
Le 8 novembre, en fin de semaine.
En fin de cette semaine, ouais.
Donc, allez-y. Alors, Rulio Biscotto, je le rappelle, c'est une BD au format italienne,
ouais.
Dessinée et colorisée par, scénarisée et colorisée par Tony Murio et dessinée par Michael Roux. C'est aux éditions Popcorn Kids, Monsieur Popcorn Kids, et qui va devenir une collection chez Kenes. On ne sait pas, on n'est pas sûr.
On ne sait pas vraiment. Pour l'instant, Monsieur Popcorn est un label de Kenes.
D'accord.
Après, la chose qui va changer, dont on est sûr, c'est qu'à partir de janvier, on va être distribué par Hachette.
Peut-être plus de visibilité.
Peut-être plus de. Oh, bah, certainement plus de visibilité, ouais. Ça sera pas difficile. Mais non, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après qu'on passe sous l'égide Kenes, je suis pas encore dans les tuyaux. C'est pas forcément quelque chose dont on a discuté avec l'éditeur pour l'instant. Donc,
ouais. Ok. Donc, Rulio Biscotto, tome 3.
Ouais.
Ce gros frimeur d'Akira, je me plante pas sur le.
Ce gros frimeur d'Akira, ouais.
Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Rulio Biscotto du tout, puisque Rulio est un petit catcheur mexicain. C'est un petit garçon mexicain qui vit tout le temps habillé en catcheur.
C'est un fils de luchador en fait. Donc du coup, ils sont luchadors de père en fils et son papa est vigile pour la parade de la fête des morts qui a lieu une fois par an. Donc, il n'est pas surchargé de boulot, mais non. Voilà. Ils sont pas pétés de thunes, ils vivent dans une roulotte l'un et l'autre.
Le truc plutôt mignon et sympa.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et là, du coup, alors j'ai perdu son nom.
Qui ça?
C'est Shiba-san, non?
Shiba-san. Akira, non?
Non, son tonton.
Hayao-san.
Hayao-san.
Oui, en hommage à Hayao Miyazaki, en l'occurrence.
Ah oui, effectivement. Hayao-san, qui est un ami bricoleur et une espèce de grand-père d'adoption de Rulio.
Oui, tout à fait, ouais.
Qui va aller chercher son petit-fils à l'aéroport.
Ouais.
Suivi par toute la clique de Rulio et ses copains.
Parce qu'ils adorent les avions, donc ils veulent y aller absolument.
Voilà. Et ils vont découvrir un petit garçon qui est, pour parler vulgairement, un petit con.
Oui, bah complètement. Au début de l'histoire, en tout cas, c'est un vrai petit con. Puis, bah pendant une bonne partie de l'histoire, c'en est un quand même.
En fait, on a l'impression d'avoir le citadin pur souche qui débarque à la Combrousse et qui dit « Qu'est-ce que vous me faites suer, bande de bouseux ?»
C'est basé sur une expérience que j'ai vécue avec mes cousins quand j'étais gamin, parce que nous, moi, je viens d'une petite commune de 3000 habitants, donc c'était vraiment le fin fond du département. C'était dans les Mauges en plus, donc on est sur une région assez sinistrée, je m'excuse pour les Maugeois. Et j'avais des cousins qui vivaient à la ville, à Rouen, et ils venaient pour les vacances. Et ils étaient... Enfin, un des trois, en tout cas, je balancerai pas de nom, était à l'époque.
Il se reconnaîtra.
Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il a une espèce d'attitude un peu arrogante, comme ça, du mec qui débarque de la ville et qu'on oblige à venir en vacances et qui a déjà prévu de s'emmerder pendant tout le temps des vacances, quoi.
Alors, sauf que c'est pas tout à fait le cas, puisque là, Rulio va finir par défier Akira,
oui.
Qui vient avec tout son fatras informatique et numérique. Mmh. Et ils vont dans une espèce de monde virtuel, dans une joyeuse pagaille, dont je ne vais pas vous raconter non plus les tenants aboutissants, parce que c'est pas...
Non, c'est pas vrai, on peut juste dire...
On va pas vous
que...
déflorer la pixelisation des personnages.
Non, on peut juste dire que c'est vraiment un duel de pays. Donc clairement, il y a le Mexique d'un côté et puis le Japon, parce que c'est ça le débat. Hein, c'est le Japon, c'est beaucoup mieux que le Mexique. Le Mexique, vous avez rien, les gars. Nous au Japon, on a tout. Et du coup, il arrive avec un boulard monstrueux, quoi. Donc il sort un espèce de robot à tout faire qui lui dit, alors ça c'est Bebop, comme ça qu'il s'appelle, Bebop dernière génération. Et Bebop est capable de sortir des casques de réalité virtuelle avec un logiciel de dingue, hein, parce que ça recrée tout un univers, et du coup il se défie en duel là-dessus, alors sur, encore une fois, le bon vieux duel Japon-Mexique, avec tout ce que ça peut engager.
La limite du virtuel étant leurs seules imaginations,
ouais, exactement,
avec
ouais.
Toutes les conséquences que ça peut avoir.
Oui, c'est ça, ouais. Alors sachant qu'ils n'ont pas le droit de se blesser, on est quand même dans une bande dessinée pour enfants, ils essayent à un moment donné, parce que du coup, pas encore déflorer le truc, mais Rulio, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pense qu'il est gigantesque, donc il devient géant, et il n'a qu'une envie, c'est d'écraser le japonais, ce qu'il ne peut pas faire, évidemment, parce que voilà, on est dans un jeu, et dans une bande dessinée pour les enfants.
Alors, comme sur les albums précédents, il y a des petits compléments, alors... Cette fois-ci, tu as décidé, peut-être communément avec l'éditeur et Michael, que vous n'alliez pas laisser les gens découper le bouquin.
On a vu des retours là-dessus. Moi, à la limite, ça me dérangeait pas, mais je trouvais que par rapport à l'histoire et par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, c'était plus pertinent de faire ce qu'on a fait à la fin, à savoir des recettes.
Des fiches recettes.
Des fiches recettes, parce que c'est en plus un truc qui est assez dans l'air du temps, et que rarement il y en a pas pour les enfants. C'est surtout pour les adultes en fait qu'on fait des fiches recettes. Ça existe, hein, bien évidemment, mais c'est surtout aux adultes qu'on propose ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, y a Akira qui propose une recette, les onigiri, et puis Rulio qui propose les fameux chimichanga, dont Deadpool raffole. Donc voilà, on est gagnant sur tous les tableaux.
On n'a pas Deadpool en guest.
On n'a pas Deadpool en guest, non. Enfin, c'était pas trop envisageable, mais par le biais des chimichanga, il est un peu là quand même.
Et puis pour compléter, il y a également une petite histoire écrite.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
C'est une petite histoire qui est écrite par Philippe Cazeneuve. Alors il y a deux histoires en fait. Il y a une petite bande dessinée supplémentaire qui est écrite par Philippe Cazeneuve qui suit pas en fait la trame. Alors il n'y a pas une trame extraordinaire, mais il y a quand même un personnage, notamment Ayao-san, qui apparaît dans le 2, qu'on revoit dans le 3, donc il y a une progression malgré tout. Là, c'est sorti de la chronologie des récits principaux, et à chaque fois on demande à un scénariste. Donc dans le tome précédent, c'était Aurélien Ducoudray. Et là, c'est Philippe Cazeneuve qui fait énormément de séries à succès chez Bambou et qui nous a gentiment découpé 5 cases sur Pablito, son copain squelette qu'on a marre en fait, parce que Rulio c'est le chef naturel.
C'est toujours le chef.
Lui, il a un petit coup de moins bien vis-à-vis de ça, donc il décide.
Trop bellitude.
Un petit peu, ouais, de remonter ça. Sa propre équipe, et puis de partir à l'aventure. Et puis l'autre, c'est plus en fait un récit illustré à la manière des livres pour enfants, qui est écrit par Thomas Bianco, le frère de Guillaume Bianco, qui est auteur de livres jeunesse, et qui du coup nous a écrit une petite histoire. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça s'appelle Le Révo de Fernando, mais, alors comme dans le tome précédent, sauf que les deux personnes, c'était Richard Petitsigne dans le tome précédent qui écrivait, se sont pas du tout concertés. Et ils ont trouvé ce jeu de mots qui est exactement le même, donc on l'a laissé comme tel. C'est Le Révo de Fernando à nouveau, avec une histoire qui est radicalement différente, mais qui, encore une fois, prend à partie le chien de Christophe Cazeneuve. Oui, excuse-moi, pardon, c'est pas Philippe Cazeneuve. Ouais. Tristan. Qui prend à partie le chien Fernando, qui semblerait que ce soit parmi les gens à qui on propose d'écrire des histoires.
Le chien plaît le plus.
Voilà, c'est le chien qui plaît le plus. Ouais. Fernando étant un gros chien qui pue, qui pète, qui rôde, qui pisse partout, et ça en général ça plaît aux adultes comme aux enfants.
T'as mis beaucoup de toi dans ce personnage.
J'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage, ouais. Mais franchement c'est clairement mon préféré à moi aussi.
Non, alors une petite BD qui passe vachement bien, qui se lit malheureusement à mon avis trop vite,
ouais.
Qui permet quand même de se finir sur de la contemplation, parce que du coup il y a plein de copains qui ont fait des fausses couves.
Ouais, des fausses couves, on demande à chaque fois qu'il y ait une galerie de fanart et on en invite systématiquement des potes dont on aime le travail forcément. Donc là, en l'occurrence, sur celui-ci, il y a Olivier Martin, il y a David, il y a Thomas Girard qui est alors qui n'a pas publié encore à l'heure actuelle, mais ça ne saurait tarder parce qu'il a intégré l'atelier La Boîte qui fait beuh, il est vraiment très très bon. Et puis il y a Virginie Augustin aussi. Petit plus, il y a eu un concours enfant-adulte, oui, avec des couvertures réalisées par Héloïse Audouin qui a gagné le concours enfant, et Lisa Serde Séchet qui a gagné le concours adulte. Donc on les a mis à la suite de la galerie
classe
des professionnels. That's all,
folks. Pile poil pour s'apprêter à finir. Alors, on donne les références. Rulio Biscotto, tome 3, c'est des éditions Monsieur Popcorn Kids.
Ouais.
C'est de Tony Emerio et Michael Roux. On va pas refaire toutes. Non, Tristan, on n'a pas le temps. Je sais pas si tu as vu le monsieur, lui, c'est le gros
Tristan,
bazar.
Tristan, il est venu défendre son bout de gras.
Ils vont venir tout pulvériser. Hein. Comme d'habitude. Allez, on se quitte, on se retrouve pas la semaine prochaine puisqu'on fera du coup jour férié. Hein.
Il faut se reposer le 11 novembre.
Donc on se retrouve dans deux semaines pour encore plus de BD. Ciao, bonsoir et surtout pensez à lire, ça rend intelligent il paraît. Au revoir.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Batman!
Oh, that's a stupid!
Batman! Come here!
instant, les touristes d'honneur.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut.